BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon.
Vous êtes bien dans le 18-19. Mon invité, c'est François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonsoir, François Hesbourg. Merci d'être avec nous. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs analystes de la géopolitique mondiale et on a besoin de vos lumières. Et en plus, vous publiez un livre qui est quand même très, très intéressant, L'Europe face aux prédateurs, où vous dites, tiens, entre autres, on y reviendra, l'Europe a besoin d'être beaucoup plus brutale. Soit l'Europe, c'est le déclin de l'Europe, soit au contraire, c'est la renaissance de l'Europe. On va revenir là-dessus, mais je voudrais évidemment qu'on d'abord qu'on regarde un peu ce qui se passe ce soir. L'actualité, elle se passe du côté du détroit d'Ormuz avec Donald Trump qui lance la bataille navale. Alors, on apprend qu'il y a peut-être deux navires qui ont pris feu, puis finalement non, on ne sait plus exactement quoi. Mais on voit bien que la tension, elle est extrême.
La tension est extrême, le risque d'escalade est très élevé, et le fait, lui qui est avéré, puisque les sources locales, elles, sont très claires, le port de Fujairah a été effectivement attaqué par les Iraniens aux Émirats Arabes Unis, c'est les débouchés d'un oléoduc qui permet de sortir 1,5 million de barils par jour depuis le Golfe Persique, jusqu'à la mer d'Arabie, sans passer par le détroit d'Ormuz. Sauf que les Iraniens ont dit ce matin que le port de Fujairah était désormais inclus dans le blocus. Et les Iraniens, pour bien marquer que ce n'était pas pour plaisanter, ils ont attaqué le port. Autrement dit, et ça se voit tout de suite dans les graphiques d'augmentation des cours du pétrole, ça s'est tout de suite reflété, évidemment, dans le prix du Brent tout à l'heure.
Oui, il y a 4 missiles qui ont visé les Émiratis, qui est vraiment le pays en fait, qui est le plus touché par cette guerre en fait en Iran.
C'est le pays le plus visé, c'est celui qui a pris fait et cause pour les États-Unis et Israël plus que tout autre dans la région du Golfe. C'est aussi celui qui jusqu'à présent arrivait à sortir une partie de son pétrole vers les marchés mondiaux, contrairement aux autres monarchies du Golfe. Ça, maintenant, il faut craindre que ce soit fini, que les Émiratis sont logés à la même enseigne que les Koweïtis ou les...
Oui, et les Émiratis qui ont décidé, c'était avant le week-end, de sortir de l'OPEP. Donc, c'était quand même un point important aussi. Une question quand même, François Hesbourg, est-ce que je peux vous demander un peu, ce soir, comment vous jaugez la situation parce qu'il y a une guerre d'information absolument terrible. Nous, médias, on essaie de rester entre les deux. Mais comment est-ce que vous jugez ce qui se passe pour vous ? C'est les Iraniens qui imposent leur tempo ? C'est Trump qui, au contraire, qui est le plus menaçant ? C'est quoi votre analyse ?
Les deux sont convaincus que la victoire est à leur portée, ce qui évidemment contribue à créer une situation qui est bloquée. Dans la réalité, c'est l'Iran qui tient pour le moment le manche. Et Monsieur Trump a évidemment infiniment de mal à reconnaître cet état de fait, puisqu'il part du principe que cette guerre, il l'a gagnée il y a longtemps, en ayant coulé la
marine. Pardon, mais pourquoi dites-vous et sur quoi vous vous appuyez pour dire que actuellement, c'est l'Iran qui tient le manche, pour reprendre votre expression.
L'Iran parvient à priver le monde entier d'à peu près 13% des flux normaux de pétrole dans le monde. L'économie mondiale est menacée dans ses œuvres vives par cet acte iranien, qui n'était d'ailleurs pas inattendu. Ça fait 50 ans que tous les stratèges du monde étudiaient l'hypothèse d'une fermeture du détroit d'Ormuz. On en connaissait a priori les implications. Il n'y a que M. Trump qui paraissait ignorer superbement ce risque lorsqu'il s'est lancé dans cette guerre.
Oui, mais en même temps, lui, l'économie mondiale frappe d'accord le prix de l'essence a augmenté un petit peu aux États-Unis. Mais si vous voulez, sinon, l'économie américaine, elle croule sous le pétrole. Enfin, la situation est plutôt florissante aux États-Unis. Donc,
le marché du pétrole est un marché mondial. Et lorsque l'essence augmente beaucoup, et non pas un petit peu, parce qu'elle augmente beaucoup aux États-Unis comme ailleurs.
Oui, elle augmente beaucoup. C'est normal, vous l'avez dit, c'est un marché mondial. Mais en même temps, vous regardez le galon, il a 4,5 $.
Oui, pour le régulier, c'est 4 $, c'est près de 4,50 $. Et pour le premium, c'est un peu plus de 5 $.
Donc pour vous...
C'est un truc à perdre les prochaines élections, oui, ça ouais. C'est clair.
D'accord. Donc pour vous, pour l'instant, le vainqueur, c'est l'Iran.
C'est pas le vainqueur, puisque la guerre continue, c'est celui qui pour l'instant tient le manche. Ça ne veut pas dire que c'est l'Iran qui va s'en sortir en position de vainqueur. Ça, j'ai pas dit ça. Cette guerre, comme toutes les guerres, n'est pas linéaire et elle va prendre des tours et des détours imprévus dans les mois qui viennent.
Croyez-vous que Donald Trump veut vraiment frapper l'Iran? Parce que j'ai envie de dire que chaque soir, nous, on se couche avec Donald Trump qui veut, ça y est, il va frapper l'Iran. Et puis chaque matin, nous, on se réveille avec un tweet de Donald Trump qui dit, ben non, mais finalement, la diplomatie, c'est important. Donc, il y a des allers-retours permanents.
Mais Trump n'a aucune envie de voir l'Iran frapper à nouveau les monarchies du Golfe et mettre à feu et à sang la navigation dans le Golfe Persique. Monsieur Trump a au moins appris une chose, c'est que les Iraniens savaient faire ça. Donc, il ne cherche pas la bagarre. En même temps, il ne parvient visiblement pas à reconnaître le fait que dans une négociation, il va falloir que chacun cède un peu de terrain pour pouvoir éventuellement arriver à un compromis. Monsieur Trump n'est pas un homme qui fait des deals, contrairement à ce que l'on croit. Monsieur Trump est quelqu'un qui a l'habitude d'imposer sa position.
Ben, c'est un deal maker.
Ben non, ce n'est pas un deal maker. Je suis désolé. Sa vie d'homme d'affaires montre une succession de faillites quand même relativement retentissantes au fil des décennies. Et dans la vie internationale, il sait s'imposer ou il sait reculer. Il ne sait pas faire un deal. Un deal, c'est une transaction. C'est je te donne ceci, ouais. Tu me donnes ça et on fait un accord ensemble. Ça, pour M. Trump, ce n'est pas son truc. Hein.
D'accord. Juste encore un point là-dessus avant de passer à l'Europe, parce que c'est quand même ça aussi qui nous intéresse. C'est là, il y a des navires qui sont menacés. L'Iran menace de mettre le feu à des navires, notamment des navires américains. Est-ce que c'est ça qui peut faire exploser vraiment la guerre?
Ce qui peut faire exploser la guerre, c'est soit effectivement un coup iranien porté à un navire américain. Les Américains, je pense, réagiraient avec une brutalité assez spectaculaire. Et à l'inverse, si l'Iran frappe des navires des pétroliers ou des cargos, oui. Le prix du pétrole, bien entendu, montera encore plus haut. On est dans ce risque-là en ce moment, hein, sur les deux que je viens d'évoquer.
C'est un risque très très fragile. Alors là-dessus, on peut se demander, et l'Europe dans tout ça? Je rappelle que vous publiez chez Odile Jacob l'Europe face aux prédateurs, forger la nouvelle puissance, parce que vous dites soit l'Europe de manière est en déclin, soit elle poursuit son déclin, soit éventuellement ce qui se passe peut être l'occasion d'un renouveau. Vous dites, nous sommes dans le collimateur et nul ne sait aujourd'hui quel sera le sort dévolu au continent américain dans les bouleversements planétaires en cours, livré au ressentiment d'une Amérique qui lui tourne le dos, à l'hostilité d'un néo-empire poutinien ou à la prédation d'une Chine méprisante. L'Europe vieillissante est-elle vouée à un déclin irrémédiable? Oui. Merci François Hesbeau.
Ah ben, ça, malheureusement, c'est l'état de fait. Il suffit de voir d'entendre les déclarations de Monsieur Trump sur le retrait de moyens militaires depuis l'Europe pour s'en convaincre. Quant à Monsieur Poutine, il poursuit allègrement sa guerre en Ukraine. Et quant à la Chine, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'industrie automobile allemande en prend en plein la figure, du côté des Chinois comme du côté des Américains. Ça fait effectivement beaucoup. Mais ce qui était encore pire, c'est que ces trois prédateurs tiennent vis-à-vis de l'Europe méprisant. Pour les États-Unis, l'Europe est sortie de l'histoire. Nous sommes oui. Des couards, nous ne pesons rien.
Civilisation passée.
Voilà. Pour les Russes, Nous sommes une espèce de planète molle faite de wok. Vu de Chine, nous sommes des démocraties en déclin irrémédiable. Et le problème, c'est que ces trois narratifs qui se superposent sont souvent repris en Europe même. Nous convaincons...
Ben vous les reprenez, si je peux me permettre.
Ben oui, justement. Oui. Nous les reprenons sur le thème « Ah oui, on est vraiment, ça va vraiment très très mal », alors que ce que je tente de démontrer dans mon livre, et je pense que je le fais de façon raisonnablement convaincante, c'est que nous sommes beaucoup moins faibles que nous le croyons parfois nous-mêmes, nous sommes plus forts que nous le croyons parfois nous-mêmes, que les problèmes que nous avons sont très largement partagés par les prédateurs, y compris dans des domaines où on ne s'y attend pas. Je prends un exemple très pratique. L'image de l'Europe, c'est celui d'un continent en déclin démographique consternant, une espèce d'EHPAD géant, une espèce de musée, et cette image est reprise pas seulement chez les prédateurs, elle est aussi reprise chez nous. Ben, si vous posez votre regard 3 secondes sur la Chine, la démographie chinoise, croyez-moi, c'est autre chose en termes de déclin et de catastrophe que ce qui se passe en Europe. Ouais. Quant aux États-Unis, qui jusqu'à une date récente étaient en relativement meilleure santé démographique, aujourd'hui les indicateurs américains dans le domaine démographique sont quasi identiques, un peu moins bons que ceux de la France. Mmh. Autrement dit, vous connaissez l'expression quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. Alors, mon but n'est pas de consoler. Il s'agit pas pour moi de consoler. Il s'agit tout simplement de montrer qu'on peut bâtir des rapports de force et parfois plus aisément qu'on le croit nous-mêmes. L'affaire du Groenland. Les Américains auraient pu prendre le contrôle du Groenland en 3 heures. Monsieur Trump a failli le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Européens ont préempté, ils ont envoyé quelques troupes, pas beaucoup, pas beaucoup, ça suffit. Quelques centaines de soldats, d'une huitaine de pays, des bateaux, oui. Et on a menacé de recourir à ce qu'on appelle médiatiquement le bazooka, c'est-à-dire l'instrument anti-coercition dans le domaine commercial, c'est-à-dire le déclenchement d'une guerre commerciale de grande envergure. Les marchés auxquels M. Trump est sensible.
Ça, pour le coup, il est sensible.
Alors là, quand tous les indicateurs sur les marchés boursiers et surtout obligataires sont passés au rouge, alors là, le lendemain à Davos, Monsieur Trump, tout d'un coup, il s'était fait tout petit. Et il avait expliqué que non, il ne recourait pas à la force. Donc l'Europe sait se mettre en ordre de confrontation. Lorsqu'il le faut.
Oui, alors ce que vous dites, et que vous détaillez bien dans votre livre avec des formules qui frappent François Hesbourg, c'est vous dites l'Europe doit apprendre le rapport de force. Oui. L'Europe doit être beaucoup plus brutale. Or, ce n'est pas du tout dans notre logiciel démocratique.
Absolument, ce n'est pas dans notre logiciel. On va devoir l'apprendre. C'est une question vraiment de vie ou de mort, hein, parce que les trois prédateurs, ils nous en veulent tous les trois pour des raisons parfois communes, parfois distinctes, mais en tout état de cause...
La seule chose, c'est qu'ils ne se mettent pas d'accord complètement sur notre dos.
On l'espère, mais la capacité de M. Trump de se mettre d'accord avec M. Poutine est très élevée, et je ne parierai pas forcément sur une confrontation entre M. Trump et M. Xi Jinping lorsque M. Trump va aller à Pékin dans une quinzaine de jours. Donc il va falloir apprendre, il va falloir aussi que l'on apprenne à jouer avec les autres États, ceux qui sont eux aussi confrontés à la prédation de ces trois pays.
Je pense vous parlez du Mercosur, vous parlez de
je
l'Inde.
Je parle du Mercosur, je parle de l'Inde, je parle des démocraties asiatiques, Japon, Corée du Sud et ainsi de suite. Alors, on n'a pas forcément la même histoire, on n'a pas forcément les mêmes références, mais on a basiquement les mêmes intérêts.
Mais brutal, la brutalité, vous la mettez où et comment? Est-ce que ça passe par quoi?
Alors, ça ne passe pas par la photo de Madame van der Leyen
sur un terrain de golf
au château de Thornbury en Écosse, avec une tête de petite fille qui va se faire gronder par le grand méchant loup Trump. Ça ne passe évidemment pas par ça. Et je pense que c'était une vraie erreur de la part des Européens d'avoir accepté le mauvais accord commercial qu'on a passé avec les États-Unis. On a eu trop peur de déclencher les feux de la guerre commerciale. Je pense que M. Trump aurait reculé, comme il le fait toujours quand les marchés sont contre lui.
Oui, mais en même temps, vous voyez bien que là, alors qu'il a menacé, il a fait plus que menacer, alors qu'il a annoncé qu'il y aurait de nouveau des droits de douane portés à 25% sur les voitures, tout ça en riposte à la déclaration quand même assez forte du chancelier allemand qui a dit que l'Amérique était humiliée par l'Iran, c'est quand même un mot très très fort. Hein. Donc, et puis l'accord, il n'avait pas encore été ratifié parce qu'il est toujours en discussion au Parlement.
Ben c'est ça qui nous reprochait d'abord, hein, c'était que l'accord n'avait pas été ratifié, et je considère que le Parlement européen a raison de prendre son temps. Mais le fait est aussi, et ça, M. Trump va s'apercevoir que l'histoire s'avance de façon parfois un peu rusée. Pendant son premier mandat et pendant une bonne partie de son second mandat, il a fait une injonction aux Européens d'augmenter leur budget de la défense. Il avait raison.
Point de vue-là, c'est lui qui a provoqué le réveil de l'Europe.
Hein. Lui et Poutine ont provoqué le réveil de l'Europe. C'était pas forcément le but. Et le résultat de l'opération, c'est que les Européens disent leur fait aux Américains. Parce que vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne a doublé son budget de la défense depuis le début de la décennie. L'Allemagne va passer à 100 milliards d'euros dès l'année prochaine en matière de budget de la défense.
Oui, mais il partait de très loin, parce que justement...
Il partait de très loin. Oui. L'Europe dans son ensemble, elle dépense déjà plus que la Chine en matière de défense. Cet argent, on ne va pas le dépenser pour acheter américain. Même les Polonais comprennent ça, même les Allemands comprennent ça.
Il n'y a que pas sûr quand même.
Pour une raison très simple, c'est que les Américains viennent de nous annoncer qu'ils étaient incapables de livrer, pour cause de guerre d'Iran, le matos que les Européens avaient commandé et payé au cours des derniers mois. Donc, quand vous avez des Américains qui brandissent toutes sortes de menaces et qui ensuite vous disent que vous avez acheté et payé de l'armement américain, et ils vous disent on ne peut pas vous livrer, vous en tirez quelle conclusion? À moins d'être totalement irrationnel, vous allez dire merci monsieur, la prochaine fois j'achète ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez le Danemark qui achetait toujours américain, il vient d'acheter pour plusieurs milliards d'euros de missiles solaires antimissiles français, franco-italiens.
Oui, mais vous voyez quand même l'histoire du SCAF aussi, François Hesbourg. L'avion de combat.
L'avion de combat, lorsque vous commandez un avion pour les années 2040, quand les chefs d'état-major vous expliquent que le moment du grand danger, c'est à la fin des années 2020, au début des années 2030, je ne suis pas sûr que l'investissement dans le SCAF est forcément très intelligent. Les États et la France, comme l'Allemagne, ont conclu l'accord là-dessus en 2017. C'était avant la guerre d'Ukraine, c'était avant le monde d'aujourd'hui. Je ne pleurerai pas si on m'annonce demain qu'il n'y a plus de SCAF, mais qu'il y aura le Rafale 5. Pour les années 2030.
C'est ce que disait ici même Eric Trappier, le patron d'Assaut.
Comprends que Trappier, professionnellement, c'est sa raison d'être.
Oui, c'est sa raison d'être.
Moi, je ne suis pas chez Dassault, mais en l'occurrence, M. Trappier a raison.
D'accord, ok, comme ça, c'est... Justement, ça fera le lien, parce que c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, François Hesbourg, sur la loi de programmation militaire, puisque les députés actuellement sont en train d'en discuter avec une rallonge de 36 milliards par rapport à ce qui avait été voté en 2023. C'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis. Est-ce que, puis en plus 13 milliards d'euros extra-budgétaires, est-ce qu'on arrive à un total de 436 milliards? Est-ce que c'est ça qui peut provoquer le réveil de l'Europe dont vous parliez et le réveil de la France?
Certainement, la France se trouve face à des partenaires européens qui ont entendu le message français. Le message français, depuis des années, c'était « Réveillez-vous les gars, les États-Unis ne seront pas là éternellement, il va falloir faire de l'autonomie stratégique ». Ah, maintenant, les Européens, ils ont compris. Alors, les Polonais font passer leur budget de la défense à 5% du PIB. Oui.
Excusez-moi. Mais eux, ils ont bien compris, hein, les Polonais.
Ah, les Polonais ont compris. Les Allemands ont compris. Oui. Les Allemands sont en train de nous doubler joyeusement. Les Français ont été...
Ah, les Français aussi, quand même.
On a un bon héritage. Mais il va falloir, effectivement, que cet argent soit... voté par le Parlement, et ce qui est peut-être encore plus important, c'est que l'exécution des budgets de la défense soit conforme à la programmation. Ce qui est rarement le cas dans notre histoire, et il n'y a eu qu'un seul cas, c'était pendant le premier mandat de M. Macron, où la programmation était à peu près respectée. Ouais. Sinon, jusque-là, on a toujours fait des annulations de crédit, des reports de crédit
en cours d'année.
Les Français ont gagné la bataille intellectuelle et politique sur le thème de l'autonomie stratégique. Il va falloir que nous aussi, on en tire les conséquences. Et il ne faut pas qu'on se fasse larguer par les Polonais ou les Allemands. Il faut que l'on continue, nous, de donner le rythme.
Ouais. Quand on pense que le général Pierre de Villiers a été viré, limogé par Emmanuel Macron, mais c'était à tous ses tout débuts, parce que justement, il avait considéré qu'il avait été humilié et par des parlementaires et par Emmanuel Macron, parce qu'il demandait plus de moyens, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, ça lui donne raison quand même.
Oui, mais le chef des armées, c'est le président de la République, et dans le système français, ce n'est
pas
au chef des...
On ne dit pas ce qu'il faut.
Voilà, il y a un art et une manière... qui n'avait peut-être pas été tout à fait au rendez-vous.
Merci beaucoup François Hesbourg d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis surtout, vous publiez un livre très intéressant, parce que c'est un livre de fond, même s'il répond à l'actualité du moment. L'Europe face aux prédateurs, forger la nouvelle puissance de l'Europe, et c'est publié chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Bah justement, on reviendra sur ce que ça provoque sur les prix du pétrole, sur le choc sur l'économie mondiale. On en parlera avec des meilleurs économistes, bien sûr. Bruno Coquet, président du cabinet UNO, études et conseils. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Puis Ogio Babet, qui est le journaliste macro de BFM Business, qui était ce matin avec aux côtés de François Villeroy de Gallo sur un peu ses adieux en tant que gouverneur. On voit ça tout de suite.
Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.